Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de YNV Après Normal. Au sommaire aujourd'hui, une interview de Hakim El-Karoui. Hakim El-Karoui est normalien, agrégé de géographie, il a été la plume de Jean-Pierre Raffarin et il travaille aujourd'hui comme banquier d'affaires chez Rothschild. Durant notre interview, c'est de ce passage de géographe à banquier dont il va nous parler, mais aussi de bien d'autres choses, dans le désordre de son dernier ouvrage intitulé « Réinventer l'Occident », de sa création du Club du XXIe siècle, un réseau pour promouvoir l'égalité et la diversité en France, des valeurs auxquelles il tient beaucoup, de la responsabilité des banques dans la crise actuelle, ou encore de ces années anormales qui l'ont finalement un peu déçu. Et il va nous dire pourquoi. Bonjour Monsieur Hakim El-Karoui. Donc vous êtes né à Paris de père tunisien, vous êtes normalien, agrégé de géo, banquier d'affaires chez Rothschild, spécialiste des marchés émergents. Vous avez été la plume de Jean-Pierre Raffarin, vous êtes co-créateur du club du XXIe siècle, un réseau pour favoriser la diversité en France. Pouvez-vous nous présenter toutes les facettes de votre personnalité, de votre vie, et surtout nous dire comment concrètement de géographe on passe à banquier ?
Bonjour à vous, merci de votre invitation. Je ne vais évidemment pas répondre à votre question parce que présenter toutes les facettes de ma personnalité, de ma vie, etc., je ne sais pas, enfin je pense que je ne suis pas le mieux placé pour le faire. Vous avez évoqué un certain nombre d'étapes de ma vie professionnelle. Je peux vous dire en deux mots comment une succession de hasards m'a amené là où je suis. Mais peut-être pour commencer, vous avez dit ce qui me frappe beaucoup venant de vous, de père tunisien et de mère française. Est-ce que c'est un sujet ? Ça, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut me présenter ? Prime abord, pour une émission sur en fait que sont devenus les normaliens, disons des parcours un peu. En fait, j'ai assez l'habitude qu'on pose la question, mais dans des environnements différents, où on trouve ça incroyable que quelqu'un dont le père est tunisien ne soit pas balayeur, islamiste, ou je sais pas quoi. Donc, votre question, sa formulation, m'étonne un peu, parce que je pensais qu'à Normal Sup, on pouvait se rendre compte que. Bah oui, on pouvait avoir des origines maghrébines et puis en même temps être normalien, par exemple. Oui, on pouvait ne pas être à 100% dans le déterminisme social. Oui, et puis oui, surtout, on savait qu'il y avait des Français d'origine maghrébine qui étaient autre chose que le cliché que l'on veut bien en faire. Voilà. Donc,
c'est bien, mais en fait, c'est surtout par rapport à, pour expliquer que votre création, le club du XXIe siècle, c'était surtout par rapport à ça.
Mais alors, le club du XXIe siècle, en fait, il est ouvert à tout le monde. Et son objet, c'est la diversité de la société française dans son ensemble, dans sa globalité. Et qui dit diversité, dit renouvellement, dynamique interne, promotion sociale. Et tous ces sujets, en fait, ils concernent évidemment les enfants d'immigrés parce que on voit leurs différences. Je suis effectivement, j'ai été géographe. Quand on fait des études de géographie, on étudie les reliefs karstiques. Et on sait que pour identifier les sources et les résurgences, on met un peu de colorant dans l'eau. Ben, les enfants d'immigrés, c'est comme si c'était ce colorant dans l'eau de la société française et qui permettait de suivre le destin social des enfants d'ouvriers. Ils sont très majoritairement issus de milieux populaires. La démographie fait que les parents sont souvent venus dans les années 50, dans les années 60, enfin c'était la grande vague, pour travailler dans les usines au moment où la France est trente glorieuse, etc. Donc c'est ça l'intérêt. Mais le club 21e siècle, c'est pas du tout un sujet communautaire, un sujet lié uniquement à l'immigration, c'est vraiment le sujet de la dynamique de la société française. Alors avec évidemment cet angle, mais une volonté qui est plus globale, qui est ouverte, là où certains auraient envie de se fermer. Donc
c'est un club ouvert à tout le monde.
Un club ouvert à tout le monde, où se retrouvent les gens qui ont envie de militer pour une meilleure reconnaissance de la diversité de la société française, mais encore une fois, de la réalité de la société française, puisqu'on croit que tout, enfin, l'essentiel des destins individuels, des enfants d'immigrés, l'essentiel est un échec. Eh bien non. Il y a une majorité de réussite. Et plus la réussite est flagrante, plus elle est muette. Et plus l'échec est patent, plus il est criant. Donc c'est un peu les difficultés du modèle français d'intégration, c'est que c'est un modèle qui assimile, en fait, au moins dans la sphère publique, ça n'empêche pas d'avoir, de garder ses spécificités privées, sa langue, sa religion, des choses comme ça, mais globalement dans la sphère publique, on assimile. Du coup, en fait, on oublie, quand on devient comme l'ensemble de la population, bah, on oublie la différence. Et on ne voit que ceux qui ne contribuent pas à faire oublier la différence, qui du coup sont souvent perçus comme des échecs. En plus, on a une divergence sociale qui est très très forte, avec de plus en plus une polarisation entre ceux qui s'en sortent et ceux qui s'en sortent pas. Ceux qui s'en sortent pas étant en train de tomber dans un cercle vicieux de ghettoisation urbaine, de surconcentration des enfants d'immigrés, de fait qu'ils se retrouvent souvent en majorité dans des espaces, alors que la dynamique d'intégration française, elle repose, à mon avis, sur le processus de désir mimétique, hein, où une minorité essaye de ressembler à la majorité, où la majorité leur dit « c'est ouvert pour vous tant que vous nous ressemblez à nous, point ». Et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est nous ressembler.
Et vous percevez ça comme un problème ?
Non, moi je ne perçois pas ça comme un problème. Je pense que c'est plutôt une opportunité. Le seul problème, c'est que quand on a une surreprésentation d'un certain type de population dans un certain nombre de quartiers, ce processus s'arrête, tout simplement. Et en plus, et l'arrêt du processus fait peur au reste de la population. Donc c'est ça qu'on doit gérer en ce moment, et d'ailleurs c'est un des sujets du club, c'est montrer qu'il n'y a pas que l'arrêt du processus dans un certain nombre de quartiers déjà assez localisés et qui représentent à l'évidence une minorité de ces Français d'origine étrangère.
Dans ce club, vous mettez en avant des gens issus de l'immigration qui ont réussi, entre autres, ce n'est pas la seule chose que vous faites, j'ai bien compris. Mais on a l'impression que vous avez un certain goût pour l'élitisme.
Ah oui, l'élitisme est totalement revendiqué et assumé.
Ouais. Et c'est quoi pour vous l'élitisme ?
L'élitisme, c'est bah, je sais pas, c'est rentrer dans le sup. Hein. Ça, c'est l'élitisme. Franchement, si c'est pas l'élitisme, je sais pas ce que c'est.
Je sais, mais quels en sont les avantages pour vous ?
Nous, le premier travail, c'est de travailler sur les représentations. Donc les représentations, c'est comment la société, d'un côté, comment les enfants d'immigrés de l'autre et leurs familles se représentent le destin social des enfants d'immigrés. Et aujourd'hui, la représentation très majoritairement admise, c'est que c'est un échec. Donc nous, ce qu'on veut, c'est montrer par l'exemple qu'il y a certes des échecs, mais qu'il y a aussi énormément de succès. Et que ces succès font que ces Français participent du destin national, construisent le pays, sont au cœur du système, quoi, tout simplement. Et donc, ils envoient aux enfants d'immigrés l'idée que c'est possible, qu'il y a des difficultés, un plafond de verre, tout ce qu'on veut. Mais globalement, c'est quand même possible. Et au reste de la population, l'idée qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est pas parce que peut-être qu'ils sont arabes, ou peut-être qu'ils sont musulmans, par exemple, ou qu'ils sont subsahariens, noirs de peau. C'est pas ces caractéristiques physiques, culturelles ou religieuses qui vont faire que il y a un conflit, a priori. Voilà, c'est ça l'idée du club.
D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur votre passage de géographe à banquier ? Vous avez dit que c'était une succession de hasards.
Oui, c'est une succession de hasards, un peu construit quand même, mais de hasards parce que je suis rentré à Matignon par hasard, parce que j'avais travaillé avec Jean-Pierre Raffarin, comme le font d'ailleurs pas mal de Normaliens, travaille avec des hommes politiques pour les aider à écrire des choses, des livres, des discours, des choses comme ça. Et ça, j'avais commencé à le faire 2 ans et demi avant qu'il soit à Matignon. Et puis il a été nommé à Matignon, et là, il m'a dit « Venez avec moi ». Donc j'ai fait ça, je me suis occupé de ses discours, pas mal de médias aussi. Et puis après, j'ai travaillé 1 an au ministère des Finances. Et quand j'étais au ministère des Finances, j'ai rencontré un banquier qui s'appelle Lionel Zinsou, qui est lui-même un ex-normalien, qui a travaillé, lui, avec Laurent Fabius, qui est franco-béninois, très très attaché au Bénin, qui a une vision assez claire et ambitieuse du développement de l'Afrique. Et pour des raisons, on explique ou pas, enfin peu importe, on s'est tout de suite extrêmement bien entendu. Et c'était le moment où la banque Rothschild voulait développer un savoir-faire sur l'Afrique. Et moi, je connaissais assez bien, par mes études de géographie, le monde arabe, et aussi par mon parcours, mon expérience personnelle. Et voilà, je suis rentré comme ça.
Et Comment vous avez acquis les compétences de banquier ?
J'ai fait 6 mois de formation intensive à Lorbonne. Un mois de cours particulier, 5 mois d'immersion.
Ouais.
Et puis après, on apprend par effet d'expérience.
D'accord.
Et puis Lionel Zinsou m'a formé, c'est-à-dire qu'il m'a appris le métier.
Réinventer l'Occident, c'est le titre de vos derniers ouvrages. Quel est le sujet de ce livre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer en l'écrivant ? Pourquoi l'avoir publié maintenant ? Est-ce que ça fait écho à... Est-ce que ça entre en résonance avec des thèmes d'actualité ? Je ne sais pas.
Alors, le sujet du livre, disons que le point de départ est double. C'est une réflexion sur la France, l'Europe, dans la mondialisation. Et puis, c'est aussi une forme de réponse au débat sur l'identité nationale qui m'a profondément agacé, qui m'a conduit à prendre position contre Nicolas Sarkozy entre les deux tours de la présidentielle pour Ségolène Royal. Et je voulais, depuis donc 2007, contribuer. Puis au début, je me suis dit, je vais faire un livre sur l'identité nationale pour montrer que c'est pas ce qu'il en dit, Sarkozy. Et puis rapidement, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça le sujet ? Est-ce que le sujet, l'inquiétude n'est pas plus profonde ?
Oui.
Et en même temps, comme banquier, je vois, je suis un spectateur, je suis aux premières loges, à la fois de la mondialisation et puis de la perte d'influence sur les nouveaux territoires émergents des entreprises occidentales. Donc j'ai fait confluer en fait ces deux expériences pour travailler sur l'idée d'Occident, parce que je pense que c'est l'idée d'Occident qui est aujourd'hui en jeu, sachant que l'Occident a une face sombre, mais aussi une face claire, et que finalement dans le monde émergent, on voit vraiment les deux. C'est-à-dire qu'on voit l'esclavage, la colonisation, les discours, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais on voit aussi la liberté, les droits de l'homme, la démocratie, le respect de l'individu, etc. Toutes notions qui sont en fait des marqueurs de la culture occidentale. Et donc je me disais, d'un côté on a les occidentaux qui sont en train de paniquer, classe moyenne et milieu populaire en premier lieu, et puis de l'autre, en fait ils ont apporté quelque chose. Et donc ce qui peut se passer de façon assez prévisible, c'est que si la panique continue, ce qu'ils ont pu apporter, ils vont le piétiner autour de bras, ça va être dangereux. Et moi qui finalement suis un peu entre les deux, enfin suis partie prenante des deux mondes, j'aimerais bien tant qu'à faire qu'on prenne le meilleur de l'Occident, et j'aimerais bien tant qu'à faire qu'on prenne le meilleur du monde émergent, pour pas parler de l'Orient, et que le dialogue continue et qu'il contribue notamment à des sorties de crise un peu pacifiques dans ce monde émergent, et notamment dans le monde arabe. Donc voilà. Donc le livre, c'est un, expliquer la désoccidentalisation du monde,
oui.
Deux, montrer que face à ce phénomène, la facilité, c'est aller chercher les boucs émissaires. Les boucs émissaires sont proches,
mm-hmm.
Les immigrés chez nous, ce sont les Arabes, les musulmans à la périphérie de l'Occident, hein,
oui.
Qui en plus, pour les plus excités d'entre eux, les plus anti-occidentaux, continuent de faire de l'Occident le cœur de leurs problèmes, ce qui donne à l'Occident en même temps une centralité, ce qui en fait est très rassurant. Et puis ouvrir en disant, mais attendez, regardez ce qui est en train de se passer, c'est l'Asie. Et l'émergence de l'Asie, c'est tout simplement une recomposition des cartes à l'échelle internationale, et avec des impacts extrêmement clairs et forts sur les classes moyennes et les milieux populaires des pays occidentaux. Et donc si on ne comprend pas qu'il faut traiter le problème asiatique, si on veut éviter un retour de bâton violent sur les immigrés et sur les musulmans, y a plein de problèmes qu'il faut traiter mais qui ne sont pas à mon avis au cœur du problème, on ne comprend pas très bien. Donc voilà, poserons les vrais sujets, essayons de pondérer, de relativiser les difficultés tout en les traitant et en disant la vérité, et puis peut-être qu'on s'en sortira un petit peu mieux. Voilà, et ça s'inscrit évidemment dans la perspective de 2012.
Oui, d'accord. Là, vous venez donc de nous parler rapidement de votre avis sur le débat sur l'identité nationale qui a eu lieu l'année dernière. Est-ce qu'on peut revenir sur votre identité à vous, plus précisément sur votre double culture, entre guillemets, ou
bien
pas entre guillemets, comme vous voulez. Qu'est-ce
ouais.
que ce terme signifie pour vous ? Vous semblez la vivre comme une richesse. Est-ce le cas ? Pourquoi ?
Écoutez, c'est une question assez personnelle. S'il y a un match entre la France et l'Algérie, pour qui vous êtes ? Donc moi, on m'a posé cette question pendant toute mon enfance. En fait, on continue. Et donc moi je dis de façon, je suis français en France, en fait assez tunisien en Tunisie, même si je maîtrise mal la langue, ce qui est quand même d'un point de vue de construction d'identité un petit sujet. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que j'ai toujours considéré que c'était du plus et pas du moins. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont transmis de façon assez... assez globale la culture française, beaucoup moins la culture tunisienne, mais quand même un peu. Et puis après, moi, j'ai pas mal travaillé le sujet. J'ai été en Égypte, j'ai fait une maîtrise sur la Tunisie, une maîtrise d'histoire. J'ai pas mal travaillé. Et puis j'ai monté un réseau de dirigeants méditerranéens. Aujourd'hui, je suis président de l'Institut des cultures d'Islam, qui est un établissement culturel de la mairie de Paris. Donc je trace ce sillon-là en me disant que peut-être que j'ai un petit rôle. En fait, dans une société française qui est très 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 inquiète et qui trouve pas grand monde pour parler de ces sujets sans trop de difficultés, voilà. Et après, je me pose pas des problèmes métaphysiques pour savoir qui suis-je, dans quelle étagère, et voilà. Il faut prendre les deux. Je pense que oui. Enfin, s'il y a bien une idée forte, c'est que c'est une richesse. Et que c'est aussi une complexité. Et qu'il faut admettre.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la manière dont on aborde l'assimilation en France. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette distinction entre assimilation et intégration ? Que préférez-vous entre les deux manières de procéder ?
Ouais. Alors, moi, je ne préfère pas l'un ou l'autre. J'essaie de comprendre le modèle. Parce que je pense qu'il y a un vrai modèle français, comme il y a des modèles économiques, par exemple, dans les entreprises.
Ouais.
Un modèle français, pour moi, c'est un modèle d'assimilation. Ouais. Au sens où il y a un point de départ qui est assez généreux, qui consiste à faire de tous les hommes des égaux, qu'on retrouve dans les discours de la Révolution française, dans les valeurs de la République, qu'on retrouve aussi, et j'ai une dette immense à l'égard d'Emmanuel Todd, qu'on retrouve aussi dans les structures familiales traditionnelles du cœur de la France. Le seul petit problème, c'est que cette idée d'universel, elle a des frontières. Et ces frontières, en gros, ce sont les frontières nationales. Donc on dit, nous sommes tous égaux tant que nous sommes français. Du coup, pour ceux qui viennent de l'extérieur, il y a à la fois une capacité d'ouverture, puisque nous sommes égaux, mais il y a aussi une très forte réticence à l'altérité. Tout simplement parce que l'altérité vient contester, non pas la France, mais l'idée même d'universel. Donc je pense que ce que fabriquent les Français, c'est qu'ils intègrent les étrangers en se mélangeant à eux. Très frappant de voir le taux de mariage mixte en France quand on compare par exemple à l'Angleterre, aux États-Unis ou même à l'Allemagne. Il est considérablement plus développé, mais en même temps il y a une xénophobie très très forte, xénophobie au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on n'aime pas l'étranger, l'altérité, parce que l'altérité est une contestation de notre modèle universel, qui évidemment ne l'est pas, mais qui a la représentation, enfin qui a l'ambition de l'être. Et du coup, ben c'est très frappant de constater que les Français obligent les étrangers à devenir comme eux très 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 vite. Donc exigent un moment plus ou moins long d'acculturation, qui est très violent, qui, je me suis longtemps demandé, mais pourquoi les parents, les pères notamment, dans les quartiers difficiles, ont si peu d'influence, si peu d'autorité sur leurs enfants, alors que dans les pays d'où ils viennent, ils ont une influence, une autorité extrêmement forte, jamais contestée. Et en fait, j'ai compris, je crois, que les pères viennent avec la culture d'origine. Les enfants, eux, sont attirés, au sens physique du terme, par la culture de la société d'accueil, qui est majoritaire. Et du coup, ça crée des distorsions extrêmement fortes, puisque en fait, ils ne parlent pas la même langue. Éventuellement, ils parlent la même langue, mais ils parlent toujours une langue. Il y a toujours une langue commune, mais ils sont dans des systèmes de valeurs qui sont différents. Du coup, l'autorité des pères sur les enfants, sur les fils notamment, est faible parce qu'ils ne sont pas dans le même système de valeurs. Et ça, je pense que c'est très frappant en France, à quel point il y a une intolérance absolue pour des systèmes de valeurs différents, mais en même temps une capacité d'attraction et en fait d'accueil.
Donc, cette capacité d'attraction et d'accueil qui constitue le point positif
du modèle français. Qui lui donne sa dimension universaliste, qui fait que la France n'est pas raciste mais qu'elle est xénophobe. Et après, bah, quand on compare...
Et c'est différent dans les modèles
Bah, si on prend l'Angleterre, le plus bel exemple, c'est les États-Unis qu'on nous sert comme référence du melting pot. Ouais, il faut qu'on se rende compte que les États-Unis, il y a de l'assimilation, mais qui s'arrête au noir. C'est-à-dire qu'en gros, tous les non-noirs sont assimilés, avec un sujet aujourd'hui quand même, une frontière hein, avec les latinos. Mais les Américains ont su assimiler tous les Européens, y compris les Juifs. Y compris les Irlandais, y compris, sachant qu'à chaque fois on disait que ce sera impossible parce qu'ils sont trop différents, mais ils n'ont à aucun moment pu assimiler les Noirs. Et il y a aujourd'hui une communauté noire qu'on connaît évidemment aux États-Unis, 350 ans après le début de la vie commune, et cette communauté, elle est toujours aussi forte. En France, c'est juste inimaginable d'imaginer que dans 350 ans ou dans 300 ans, il y aura une communauté maghrébine à Paris.
Oui.
C'est juste risible. Bah, aux États-Unis, c'est la réalité. Alors après, cette assimilation, elle a quand même une limite. Et c'est là où on n'est pas totalement... on n'est pas complètement totalitaire. C'est la sphère privée. C'est-à-dire que globalement, même si ce n'est pas très bien vu, on peut garder sa culture d'origine dans la sphère privée. Garder sa langue, garder sa religion. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui vilipendent le modèle français d'intégration, ni pour dire qu'il est un échec, parce que c'est pas un échec, ni pour dire qu'il est absolument insupportable, tellement il est exigeant, autoritaire, qu'il ne laisse pas place à la différence, etc. Je pense qu'en fait, c'est un compromis intéressant. Mais un, il faut le comprendre, et puis deux, il faut qu'il fonctionne. Et la surreprésentation, la surconcentration d'enfants d'immigrés dans des quartiers, ça casse ce modèle, parce qu'il ne peut pas fonctionner.
D'accord. On a bien compris la distinction. Merci. J'allais vous poser la question de savoir si vous sentiez l'incarnation ou le symbole de quelque chose. Et vu comment vous avez réagi à mon amorce, est-ce que je vais transformer la question. Est-ce que c'est une question qui vous énerve?
Alors, moi, si je suis l'incarnation de quelque chose, c'est l'incarnation de la reproduction sociale. Ma mère est normalienne, mon père est universitaire... ma mère est une grande mathématicienne.
Et si vos parents étaient fils d'ouvriers? Et si vous étiez fils d'ouvriers?
Oui, alors là, oui, j'aurais pu incarner un beau rêve républicain, etc. Mais, enfin, moi, j'aimerais bien, hein, mais...
Ce n'est pas le cas.
Si je suis honnête, non, c'est pas vrai. Après, est-ce que j'incarne quelque chose? Franchement, ce serait prétentieux de ma part. Je vois bien que je surprends un peu avec mon nom. Là où je suis, je ne dis pas dans mon entreprise, mais à Paris, dans les débats, dans mes engagements, etc. Et je ne le refuse pas complètement parce que je me dis que je peux servir à quelque chose. Même si j'essaye d'être précis et d'éviter qu'il y ait trop de mensonges sur la marchandise, quoi, vous voyez. Je viens pas d'une famille de 14 enfants avec des parents illettrés. Ma mère analphabète, si possible, mes sœurs battues, s'il y en a un ou deux trafiquants de drogue, c'est quand même vachement mieux, etc. Non.
D'accord. Vous êtes agrégé, vous avez été allocataire à Lyon 2, vous avez été maître de conférence à Sciences Po, mais aujourd'hui, votre travail principal est d'être banquier, comme vous nous l'avez dit. Quel est votre rapport à l'enseignement? Vous avez travaillé dans ce domaine parce que c'est ce que l'on attend d'un normalien, ou est-ce qu'il y avait une vraie envie, une vraie vocation de votre part? Rapidement.
Alors, moi, quand je suis rentré à l'école, j'ai adoré les classes prépa. Enfin, je trouvais ça formidable.
Après votre entrée?
Non, mais quand j'étais à l'école, j'ai pas aimé l'école, moi. Je m'y suis ennuyé, et en fait, j'ai passé un an. La grecque, le reste du temps j'étais à l'étranger. Et j'ai toujours trouvé que ça a bien changé depuis, mais en tout cas quand j'y étais, c'était un gâchis extraordinaire de mettre ensemble tant d'esprits quand même assez brillants, déliés, cultivés, qui avaient des capacités de travail extraordinaires, qui avaient démontré en réussissant le concours, et puis de rien en faire. Donc j'ai pas aimé l'école, par contre j'ai aimé la prépa. Enfin, j'ai pas aimé lui passer le concours, moi je l'ai passé trois fois. Donc ça, c'était pas très très agréable. Mais avoir la chance d'apprendre autant de choses aussi vite, dans un environnement aussi stimulant, franchement, en fait, je l'ai retrouvé une fois dans ma vie après, c'était à Matignon. Où il fallait traiter 1000 choses différentes à la fois, très très vite. Mais quand je suis rentré à l'école, j'ai eu qu'une ambition, c'est d'en sortir. Parce que l'état de l'enseignement supérieur français, mon caractère qui est peut-être plus porté sur l'action que sur le que sur la réflexion pure, le fait que, comment dire, moi je gère mes calendriers à 3 mois, à 6 mois, j'aurais été incapable de faire une thèse. Ce travail de fond, silencieux, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Vous n'avez pas fait de thèse ?
Non, j'ai pas fait de thèse. J'en ai commencé une, mais je l'ai arrêtée. Je pense que je n'étais pas capable de le faire. Enfin, ce n'est pas mon caractère. C'est pas... Donc j'ai bifurqué assez vite. En étant aidé par personne, plutôt mal vu d'ailleurs au sein de l'école, parce que quoi ? Il veut faire un stage à la Commission européenne ? Quoi ? Il veut partir aux États-Unis ? Quoi ? Il veut pas faire de. Peut-être pas faire enseignement quand il sera plus grand. C'était très très mal vu. Donc, voilà.
Et vous avez quand même enseigné ? Est-ce que vous avez...
J'ai enseigné. En fait, j'ai fait. Quand j'étais à l'école, première année j'étais en Tunisie. La deuxième, j'ai passé à la grecque. Après, je suis parti coopérant en Égypte. Après, je suis retourné à l'école, mais j'ai continué. J'ai travaillé à la Commission européenne parallèlement. J'ai fait un stage dans une entreprise.
Et tout ce que vous l'avez fait de votre propre initiative, c'est ce que vous
Je l'ai fait sans l'aide de personne, mais plutôt avec les récriminations de la direction.
D'accord. Mais ça vous aidait bien d'être normal pour obtenir
ça. Ça m'aidait bien. C'est une belle carte de visite. Et je trouve que l'école est. C'est une organisation extraordinaire. Mais je trouve que ce qui est extraordinaire dans l'école, c'est ses élèves, ses enseignants. Je ne suis pas convaincu de ce qu'on en fait. Mais encore une fois, je parle d'une réalité qui a 10-15 ans. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais à l'époque, en tout cas, franchement, on aurait pu créer de la motivation, de l'émulation, de la production. Arrêter de dire que les élèves sont fatigués parce qu'ils ont fait 2 ans de prépa, quoi. Non. Les élèves, ils ont envie de s'ouvrir sur le monde, enfin, je crois. Et du coup, quand j'ai la chance de rencontrer un normalien et que mon parcours l'intéresse, je suis très très ouvert.
D'accord.
Parce que si je peux moi répondre à des questions que moi je me suis posées il y a quelques années, franchement c'est la bonne des choses.
Vous êtes revenu sur votre passage à l'ENS. Est-ce que vous avez un souvenir de ces années-là ? C'est un passage obligé dans cette émission, entre guillemets, un passage obligé.
Ouais.
Est-ce que vous en avez un à nous raconter rapidement ? Que ce soit dans l'ENS ou ailleurs, juste de ces 4 années. 4 ou 5, je sais pas. À l'époque, c'était 4.
Bah, donc, moi, à l'époque, j'étais à Frontenay. Qu'est-ce que j'ai comme souvenir de l'ENS ? Enfin, je vous dis, j'y ai pas été.
D'accord.
Sauf pour passer la grecque.
L'année de la grecque.
L'année de la grecque. J'ai fait une maîtrise d'histoire quand je suis arrivé pour passer la grecque de géo. On m'a dit, oulala, tu n'as pas fait de maîtrise de géo, c'est mal. Donc, ça m'a agacé. Bon, puis après, j'ai fait tellement de choses différentes pour lesquelles j'étais pas préparé. À chaque fois, on me disait, oulala, mais tu n'as pas fait ça quoi. Ce qui préparait, donc c'était mal. Donc, finalement, je me suis dit que c'était plutôt la première fois d'une longue série. Non, après, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, mon souvenir d'école, c'est la qualité de mes condisciples, hein, avec qui je suis resté. Enfin, on était une petite bande.
Vous vous rappelez de quelqu'un en particulier ?
On est assez très soudés. Oh, mais non, je ne vais pas donner des noms.
D'accord.
Si, je peux vous dire, j'ai rencontré ma femme à l'école.
Ah bah c'est bien, c'est un bon souvenir.
Voilà, donc ça j'ai pas perdu de temps. Et sinon, on avait des super profs.
D'accord. Revenons sur un sujet complètement différent. En quittant l'éducation nationale et les cabinets ministériels pour cette banque, la Banque Rothschild, vous êtes passé du public au privé. Pourquoi ?
Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais avoir un métier. Un métier au sens d'une technique.
Professeur, ce n'est pas un métier ?
Si, non, mais je ne l'étais plus.
D'accord.
J'avais aucune envie de le redevenir. Donc, il fallait un métier. La deuxième chose, c'était que, effectivement, j'avais fait des cabinets ministériels. Et j'avais, compte tenu de ce qui se préparait, c'est-à-dire l'arrivée de Sarkozy, j'avais aucune envie de rester dans la sphère publique. Parce que dans les métiers auxquels les fonctions que j'aurais pu exercer, elles étaient toutes, d'une façon ou d'une autre, directement sous la coupe du politique. Et là, je voulais la liberté. La troisième chose, c'est que j'avais passé 4 ans donc, en cabinet. J'avais très envie de m'aérer, sortir de Paris, de voir le monde, de... Voilà.
D'accord. Et donc, le passage du public au privé...
C'est-à-dire que j'avais pas de place dans le public. Et ça,
c'est une question d'opportunité, alors. Pas tant... Vous avez pas...
Comment dire, moi, j'ai la fibre du service public.
Oui, c'est ça que je voulais
absolu, savoir. Hein. Sinon, je ferais pas de l'associatif, j'écrirais pas de bouquin. J'y crois immensément. Mais parfois, il faut comprendre que il n'y a pas de place.
D'accord.
Et par ailleurs, les Normaliens, il faut qu'ils comprennent que quand ils sortent de l'université, dans l'État, ils ne sont pas grand-chose. Parce qu'ils n'ont pas le corps qu'il faut. Ils sont agrégés, ils font partie du corps des agrégés. Le corps des agrégés, quand vous êtes à Matignon, c'est... ça fait rigoler tout le monde, quoi. Donc, Normalien, c'est bien, c'est chic, mais vous n'êtes pas au Conseil d'État, vous n'êtes pas à l'Inspection Générale des Finances, vous n'êtes pas à la Cour des Comptes. Vous n'êtes pas au Quai d'Orsay, enfin vous n'avez pas de. Vous n'avez pas de point de chute, quoi. Et donc ils vont en tenir compte.
D'accord. Vous avez parlé, enfin fait référence à l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Ça me donne l'occasion de vous poser la question quant à savoir si vous êtes de droite ou de gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie pour vous et nous dire pourquoi vous vous revendiquez de l'un plutôt que de l'autre? Ce sera presque ma dernière question.
Est-ce que je suis droite ou de gauche? Vous savez, ce sujet-là, il dépend en fait beaucoup de ceux qui incarnent la droite et de ceux qui incarnent la gauche. Quand la gauche, c'était la gauche caviar, politiquement correcte, qui donnait des leçons de morale au monde entier, je ne me sentais pas extraordinairement proche de la gauche. Surtout quand, sur des sujets internationaux... l'évolution des inégalités, etc. Elle disait une chose et elle faisait le contraire. Quand la droite, c'est l'identité nationale, la xénophobie, le refus de l'autre, l'islamophobie, je ne sens pas tout à fait de droite. Même pas du tout. Donc si vous me posez la question aujourd'hui où je me situe sur l'agenda, je vais vous dire que je suis dans l'opposition.
À Sarkozy ?
Dans l'opposition à la majorité, quoi.
La majorité, pardon.
Oui, enfin, Sarkozy.
Incarné par
Sarkozy, il est dedans, mais. Si demain, la majorité est incarnée par. Je sais pas, Dominique de Villepin, enfin, ou un Dominique de Villepin un peu plus constructif qu'il ne l'est aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas de mal à me dire que je suis proche de Villepin, vous voyez.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plairait dans les idées de Villepin?
Je pense que c'est à peu près l'inverse de Sarkozy. Enfin, c'était l'idée, le papier que j'avais écrit qui s'appelait Chiracien mais pas sarkoziste, là, entre les deux tours de la présidentielle. L'objectif, c'est de montrer sur le fond qu'on était totalement opposés, notamment sur l'idée d'égalité, par exemple, entre les gens. Sarkozy ne croit en rien à l'égalité entre les hommes, sur la politique étrangère, sur la politique économique. Alors après, il faut donner des gages à son camp. Social du terme, mais sur les grands choix structurants, je pense qu'on a été très très loin. Et je pense qu'il y a un peu le même débat à gauche.
Oui.
Il y a des gens de gauche, notamment sur la question de l'égalité, qui moi m'intéresse. Je pense égalité entre les hommes, au-delà de l'égalité sociale. Je pense qu'il y a des gens de gauche qui sont attachés à cette idée-là. Puis d'autres qui considèrent qu'on va corriger les inégalités par la fiscalité, point, et que voilà, quoi, ça va bien. Donc, aujourd'hui, pour vous répondre précisément, pas faire trop de langue de bois, je serai à gauche. Mais...
Pour essentiellement... parce que vous n'êtes pas d'accord avec le discours sur l'égalité de M. Sarkozy?
Il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais non, parce que je suis à l'aise avec les valeurs de la gauche aujourd'hui.
Qui, pour vous, sont...
Bon, une forme d'égalité quand même, l'idée qu'il y a un peu de justice, que ça fait partie des exigences, une vision du monde où, pour certains en tout cas, même si ce n'est pas le cas d'un certain nombre d'entre eux, considèrent que l'Occident n'est pas là pour donner des leçons, mais plutôt pour contribuer à l'émergence des uns et des autres. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour ça que la question de droite ou de gauche... Enfin, elle est intéressante politiquement, mais après, comme levier d'action, je ne suis pas sûr qu'elle soit absolument pertinente.
Donc, c'est plus une question de personne.
Non, c'est pas une question de personne, c'est qu'est-ce qu'on met, où est la priorité. Et je pense qu'aujourd'hui, la priorité politique, de l'action politique, elle doit être sur les classes moyennes et les milieux populaires. Donc, de ce point de vue-là, j'ai aucun mal à me dire de gauche. D'accord. Tout simplement parce que si on perd les classes moyennes et les milieux populaires, c'est juste la démocratie qui va voler en éclats. Donc, donc il faut leur parler, il faut trouver un espoir pour tout le monde et arrêter de croire que ce qui marche pour 3, 5, 10, 15% de la population va marcher pour le reste et se diffuser par capillarité. La réalité, c'est que c'est sûr que non. Et donc l'objectif, c'est de reconstruire une politique qui est capable de concerner, de parler à cette frange de la population qui est porteur du meilleur et aussi du pire. Donc faisons en sorte de les aider à transmettre le meilleur.
Vous êtes banquier et l'économie mondiale traverse quelques péripéties. C'est une dernière question sur ce thème. Pensez-vous que le monde de la banque a ses responsabilités comme d'autres dans la crise ? Et est-ce que la banque ne souffre pas de l'opacité, de la complexité de son milieu qui coupe le lien et le dialogue avec les citoyens, ouais, pourrait-on dire ?
Alors, juste pour commencer par la fin, la banque comme l'entreprise, ce n'est pas une institution démocratique.
Ouais.
Ce n'est pas des institutions qui ont des responsabilités. Enfin, qui se vit en tout cas comme ayant des responsabilités. C'est pas bien du tout de dire ça, hein. Mais c'est ça la réalité. Les entreprises, aujourd'hui, enfin, elles ont pour horizon d'essayer de gagner de l'argent, et en même temps, pour la très grande majorité d'entre elles, elles ont le sentiment qu'elles ont un rôle dans la société. Donc après, ceux qui doivent donner un rôle évident et donner des cadres aux entreprises, c'est plus les responsables politiques. Est-ce que les responsables politiques l'ont fait ? Non. Mmh. Est-ce qu'ils ont laissé les banquiers spéculer, jouer, transformer l'argent que les responsables politiques avaient créé pour permettre à la consommation de continuer, même si les salaires avaient arrêté d'augmenter, notamment les salaires des classes moyennes et des milieux populaires ? Oui. Donc, évidemment que les banquiers ont un rôle dans la crise. Évidemment que l'appât du gain fait qu'à aucun moment ils n'ont mis de frontières. Mais je pense que c'est un peu facile, et je disais ça avant d'être banquier, hein, donc il ne s'agit surtout pas de faire de la défense corporation. C'est un tout petit peu facile d'en faire les seuls responsables. Je pense que le vrai, d'abord, ce n'est pas une crise financière, c'est même pas une crise économique, c'est une crise de modèle économique. On a cru qu'on allait se spécialiser dans la consommation, qu'on allait pouvoir se passer de produire et qu'on allait pouvoir consommer grâce à l'augmentation des dettes privées, publiques, etc. Mmh. La réalité, c'est qu'en fait, non. La réalité, c'est que pour consommer, il faut produire, il faut créer de la valeur ajoutée, il faut gagner de l'argent. Et de l'argent qu'on a dans sa poche et qui appartient pas à d'autres, même si on fait pression sur eux pour vous les prêter, pour vous prêter cet argent à bas coût. Oui, accusons les banquiers, mais surtout réfléchissons à d'autres modalités d'organisation du système économique et la spécialisation entre les pays du monde. Et à mon avis, ce sera plus efficace.
D'accord. Merci beaucoup.